Alors, il y a un mois, nous étions occupés à rappeler l'historique du processus de déconstruction, donc à la fois du texte du Lunyu, que l'on traduit en général en français par les entretiens de Confucius, donc, et aussi de la figure de Confucius lui-même, processus de déconstruction assez erratique, pourrait-on dire, qui s'est déroulé dans la longue durée, au fil de bon nombre de siècles, mais qui s'est accéléré au cours des dernières décennies, sous une double impulsion. D'une part, l'impulsion des découvertes archéologiques, notamment de corpus textuels inconnus jusqu'alors, et l'impulsion également d'une nouvelle approche méthodologique des textes, dont nous avons vu qu'elle était inspiré notamment des méthodes de critique textuelle biblique développées en particulier dans les milieux théologiques protestants allemands depuis le XIXe siècle. Alors, ce double facteur nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir les textes qu'une tradition à dominante à la fois européenne et moderne nous a habitués à concevoir comme étant un essai ou une pièce littéraire continue et due à un auteur unique, ou du moins assignable à une école. C'est notre conception, disons, européenne et surtout moderne, donc d'un texte. Alors, ce n'est pas à dire que ce genre de texte ne pouvait pas exister dans la Chine ancienne, mais il apparaît comme étant assez probable que ça n'était pas la norme. Alors, on a vu que la terminologie chinoise traditionnelle, qui s'applique aux sources textuelles anciennes, prend pour unité non pas le livre tel que nous le connaissons ici et maintenant, mais donc le pian, que vous avez ici, ce caractère-là. Et donc, nous avons vu dans ce caractère, j'arrive pas très bien à voir la flèche où elle est, enfin, toujours est-il que c'est ce premier caractère que vous avez en haut. Donc, nous avons vu que le graphisme de ce caractère nous indique qu'il s'agissait vraisemblablement d'un faisceau de fiches de bambou. Si j'arrivais à voir où est ma flèche. Oui, voilà. Alors, donc, vous avez dans la partie haute du caractère, donc, cette partie qu'on appelle en général donc, le radical ou la clé, et qui correspond ici au radical ou à la clé du bambou. Et en dessous, vous reconnaissez donc la, on pourrait dire, la schématisation de latte ou de fiche de bambou, donc reliées entre elles par un fil transversal, un cordon transversal, alors que ces fiches donc sont disposées à la verticale. Alors je vous rappelle un petit peu comment se présentent donc ces textes manuscrits que l'on a retrouvés récemment dans des tombes grâce à des fouilles archéologiques menées depuis à peu près une trentaine d'années. Et vous voyez donc comment se présentent ces fiches à la verticale avec donc une colonne de caractères par fiche. J'en profite pour vous montrer également comment ces mêmes fiches sont traitées par les archéologues et les épigraphistes, donc qui sont chargés donc de déchiffrer, de lire les textes qui sont inscrits. Donc vous voyez donc en couleur plus foncée, du moins je les vois très foncées, donc ces mêmes fiches de bambou avec à côté donc la transcription en caractère chinois moderne. Alors, pour beaucoup de ces textes, ces transcriptions sont encore de nature relativement hypothétique, hein, puisque il est évident que la graphie a quand même un petit peu changé depuis 2000 ans et quelques. Hein, voilà, donc vous voyez un petit peu comment s'opère donc le travail donc sur ces fiches de bambou. Donc je reviens donc à ce pian donc qui serait au fond donc on pourrait dire l'unité de base donc de ce que nous appelons un livre. Donc il ne s'agit pas exactement d'un chapitre, même si on a traduit conventionnellement ce terme de pian par chapitre, mais donc voilà, un livre se composerait donc de ces pian, et les pian sont à leur tour subdivisés, composés donc de zhang. Là, c'est le deuxième caractère que vous avez sur la diapositive, et ces zhang sont eux-mêmes constitués de phrases ou de membres ou groupements de phrases relativement courts. Un zhang peut être par exemple une section dans le lunyu, hein, c'est-à-dire les entretiens de Confucius, ou bien une stance ou un verset dans le laozi. Là, je vous donne tout de suite donc un exemple sur lequel nous reviendrons tout de suite. Vous avez par exemple donc un verset du Laozi 64, hein, et en dessous donc une section du Lunyu au livre ou au pian numéro 1 et Zhang numéro 9. Je vous rappelle donc le texte des entretiens de Confucius du Lunyu, selon donc la convention adoptée en général donc dans les milieux sinologiques occidentaux, c'est de dénombrer donc les pian ou ce que nous appelons chapitre par des chiffres romains et les Zhang donc par des chiffres arabes. Alors, si on compare différentes sources textuelles, on s'aperçoit que certains zhang, qui sont en quelque sorte des unités de base servant à constituer le texte dans son entier, donc ces zhang se retrouvent dans différents contextes où ils prennent des sens différents. Et ces unités textuelles sont désignées par différents termes ou expressions que l'on trouve le plus souvent en anglais. Par exemple, vous avez donc le sinologue. Qu'est-ce que j'ai fait de ma liste de noms ici? Oui, donc le sinologue américain, c'est le deuxième nom que vous avez sur la diapositive, William Bowles, qui parle donc de movable units, c'est-à-dire d'unités mobiles, ou bien donc de building blocks, c'est-à-dire donc de blocs de construction qui peuvent faire penser donc aux cubes des jeux de construction que nous donnons à nos très jeunes enfants. Un autre sinologue américain, dont vous avez le nom juste en dessous, donc Edward Shaughnessy. Alors, j'en profite tout de suite pour vous annoncer que le professeur Shaughnessy de l'Université de Chicago devrait venir au Collège de France donner une série de 4 conférences justement sur ces textes anciens, donc au mois de juin, en juin 2013. Alors, Edward Shaughnessy, pour sa part, parle de pericopes, hein, c'est-à-dire en français des péricopes, qui désignent en grec l'acte de découper autour. Et c'est un terme qui est, donc en français, c'est un terme féminin, donc une péricope, qui est utilisé plus spécifiquement dans l'exégèse des textes sacrés ou dans la liturgie. Donc, il s'agit dans ce contexte d'un morceau de texte qui forme une unité, un tout en lui-même, ou une pensée cohérente qui se prête aussi bien aux commentaires exégétiques qu'à la lecture en public dans précisément un contexte liturgique. Alors, vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, c'est-à-dire il y a à peu près un mois déjà, nous avons lu ensemble un exemple de péricope tiré de l'évangile de Jean, au tout début de Jean 8. Donc une péricope très fameuse, largement étudiée par donc les théologiens chrétiens. Il s'agit donc de cette péricope de la femme adultère. Alors c'est cette histoire bien connue qui est à l'origine de l'expression passée dans le langage courant, donc de jeter la première pierre. Alors cette péricope, il se trouve qu'elle ne figure pas dans les manuscrits des évangiles les plus anciens, hein, et donc en fait d'après certains spécialistes, en fait elle ne ferait même pas partie à l'origine donc de l'évangile de Jean. Bref, je ne vais pas me lancer donc dans un long discours qui concerne essentiellement nos collègues donc qui travaillent sur la les textes chrétiens, mais il semblerait donc qu'un doute ait été jeté et persiste donc sur l'authenticité donc de cette péricope, authenticité voulant dire donc un rapport direct avec un Jésus historique. Et je vous annonçais la dernière fois que nous allons être confrontés au même type de problème concernant donc Confucius, la figure éventuelle d'un Confucius historique, et son rapport avec justement tout ce qu'on lui attribue, tout ce qu'on met dans sa bouche. Et évidemment, c'est un point qui nous intéresse plus particulièrement ici, tout ce qu'on a intégré dans le texte du Lu Yu et qui est donc placé dans la bouche de Confucius. Donc là, il y a un doute a priori donc sur l'authenticité donc de ces propos. Alors, à partir d'exemples fournis par le sinologue allemand Matthias Richter, dont vous avez le nom en quatrième position sur la diapositive, Il s'agit donc d'un sinologue allemand et même d'origine est-allemande qui est actuellement en poste aux États-Unis, comme beaucoup de ses collègues allemands qui ne trouvent pas suffisamment de postes en Allemagne, ce qui est très regrettable. Donc, beaucoup de ses collègues se retrouvent aux États-Unis. Donc, d'après Matthias Richter, on voit comment ces movable units, ces unités mobiles extrêmement concises, comme justement des expressions à quatre caractères, comme c'est le cas ici dans ce verset du Lao Tzu 64 que je viens de vous montrer. Donc, il a montré, Matthias Richter, comment ces unités mobiles pouvaient faire partie d'un fonds commun et se trouver réutilisées dans des contextes variables où, tout en préservant une formulation analogue à quelques variantes près, ces unités mobiles prennent une signification et une portée parfois très différentes. Alors, à telle enseigne que ces unités textuelles mobiles ont même été comparées à des feuilles volantes que l'on peut insérer dans un classeur ou bien dans un autre, que l'on peut ajouter ou retirer selon les besoins et dont on peut changer l'ordre à volonté. Et vous avez vu que la présentation matérielle de ces inscriptions sur fiches de bambou qui sont au départ indépendantes l'une de l'autre et qui peuvent porter chacune, donc on pourrait dire un chang ou une de ces unités mobiles, peuvent donc être redisposées, réaménagées absolument à volonté, puisque en fait l'ordre peut être modifié tout à fait, comment dire, très très facilement. Je vous rappelle que donc ces fiches sont simplement reliées par des cordons qui passent donc à peu près donc au tiers de donc ici un cordon et un autre plus bas. Donc là, vous voyez que la présentation matérielle se prête tout à fait justement à ce jeu donc de feuilles volantes dans un classeur. Alors, je vous montrais donc cet exemple qui est donné par Matthias Richter. J'ai supprimé sur cette diapositive en fait toutes les autres occurrences de ce que vous avez dans le Lao Tzu 64, à savoir donc cette formule en quatre caractères, donc Shen Zhong Ru Shi. Ma flèche. Voilà, donc là vous avez ces quatre caractères qui constituent donc une sorte de maxime de sagesse très générale, que l'on peut donc mettre à adapter à toutes les sauces, si j'ose dire, et qui signifie donc tout simplement être attentif ou sois attentif, hein, ça peut être une injonction, donc sois attentif au chong, c'est-à-dire à la fin, rouche, de la même façon que shi, au début, au commencement. C'est-à-dire donc il faut rester attentif donc à tout le processus. Nous dirions plutôt du début jusqu'à la fin, mais là en fait il s'agit justement d'un conseil d'être vigilant, hein, quand le processus arrive à sa fin, de la même façon qu'on a été vigilant au tout début. Et ça, je crois que évidemment, c'est un peu une de ces maximes de sagesse chinoise qu'on voit traîner partout et qu'on met en général d'ailleurs dans la bouche de Confucius, hein, à tort et à travers, mais j'attirerai quand même votre attention sur la justesse tout à fait vérifiable de cette maxime. Combien de fois on a vu des sportifs, notamment des sportifs français, crier victoire un tout petit peu trop tôt, hein, et se casser la figure, comme on dit assez communément, juste à la fin, hein, c'est-à-dire en passant la ligne d'arrivée, tomber de leur vélo ou je ne sais quoi. Enfin bon, donc là, ce genre de contexte assez trivial dans lequel on peut penser à cette maxime. Alors, le reste de la phrase dit donc te ou pêche, hein, c'est-à-dire donc si tu fais ça, si tu es attentif à la fin, comme tu as été attentif au commencement du processus, alors donc tu ne ou c'est un négatif, donc il n'y aura pas de pêche, c'est-à-dire d'activité où on échouera. Autrement dit, ainsi tu ne connaîtras pas l'échec. Alors cette maxime en quatre caractères, donc Shen Zhong Ru Shi, vous la retrouvez avec une variante dans cette section 9, ce Zhang 9 du Pian 1, hein, du premier livre, dirions-nous, du Lun Yu. Et cette fois, la maxime est placée dans la bouche de Zeng Zi, hein, c'est-à-dire Maître Zeng, qui était donc censé être un disciple de Confucius. Et pour une fois, nous n'avons pas la formule canonique Ziyue, c'est-à-dire le maître dit. On a toujours supposé que le maître désignait Confucius lui-même. Là, en fait, nous avons Zeng Ziyue, c'est-à-dire donc maître Zeng dit. Et que dit-il? Il reprend donc le début de cette maxime, Shen Zhong. Mais ensuite, la suite est une varie, hein, par rapport à la maxime du Laozi, donc Shen Zhong Zui Yuan. C'est-à-dire, donc, si je traduis très littéralement, ça voudrait dire donc sois attentif à la fin, hein, tout en poursuivant ton chemin très loin. Hein. Et le reste de du Zhang vous dit donc Min de Gui Hou Yi, c'est-à-dire donc la vertu du peuple reviendra donc à Hou, c'est la notion d'épaisseur, hein, de consistance, elle reviendra à quelque chose de consistant. Alors évidemment, traduction littérale ne veut pas dire grand-chose. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater que beaucoup d'exégètes, justement, de cette unité mobile du Lun Yu, interprètent cette section dans un sens ritualiste, hein, qui modifie son sens, hein, de manière assez radicale par rapport donc à la généralité de la maxime énoncée dans le Laozi 64. Dans ce contexte ritualiste, cette phrase placée dans la bouche du disciple Zeng Zi, maître Zeng, voudrait dire, donc elle s'appliquerait au prince, donc au souverain, et elle lui donnerait l'injonction donc de veiller à rendre un culte à ceux qui étaient à la fin, Zhong, donc c'est-à-dire aux parents défunts, et que donc qu'il veille à Zhuyuan, c'est-à-dire à remonter jusqu'aux ancêtres, hein, c'est-à-dire à remonter très loin dans la filiation, hein, dans la généalogie, hein, et donc de remonter jusqu'aux ancêtres. Et c'est à cette condition que la vertu du peuple, autrement dit la moralité du peuple, retrouvera donc sa consistance. Hein, c'est-à-dire, c'est toujours l'idée retrouve assez souvent dans les entretiens de Confucius, si le souverain donne lui-même l'exemple, le peuple, en fait, suivra de lui-même, c'est-à-dire retrouvera le chemin de la moralité de lui-même. Alors, nous voyons ici que nos collègues allemands, fussent-ils établis donc aux États-Unis, nous proposent ainsi des exemples sur lesquels ils mettent en œuvre, plus ou moins consciemment d'ailleurs, des techniques qui ont été éprouvées sur le corpus biblique et qui consistent notamment à confronter les textes entre eux pour en dégager des unités textuelles récurrentes et pour tenter de replacer ces unités dans leur contexte d'origine, dans ce qu'ils appellent, ou en tout cas ce que les théologiens allemands appellent, le Sitzleben, c'est-à-dire littéralement l'assise dans la vie, qui, autrement dit, enfin, le contexte, on pourrait dire, réel et vivant, qui leur fait retrouver un sens en partie ou totalement occulté par l'insertion justement de ces unités textuelles dans des corpus qui leur font dire autre chose. Là, j'ai essayé de vous donner donc cet exemple qui n'est peut-être pas le plus convaincant, mais vous savez tous que le Laozi est conventionnellement donc rattaché à donc une catégorie de textes qu'on a étiquetés sans doute hâtivement de taoïste, alors que le Lun Yu est censé représenter, par définition, le courant confucéen. Et la Vulgate voudrait justement que les taoïstes et les confucéens soient en opposition totale. Alors là, c'est une vision des choses que nous serons amenés à revoir de fond en comble. Mais toujours est-il que vous voyez bien comment fonctionne justement cette réinsertion d'unités textuelles, comme c'est cette expression à quatre caractères, dans un contexte ou un Sitzleben différent, et par conséquent qui lui fait dire complètement autre chose. Alors, il faut noter que, là c'est quelque chose que nous avions vu l'année dernière, que les supports matériels de ces unités textuelles peuvent être des plus variés. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout parlé donc de textes ou d'inscriptions de textes manuscrits. Or, il peut y avoir en fait des supports tout à fait inattendus. Par exemple, ces embouts de tuiles d'époque Han. Donc là, nous sommes donc entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après Jésus-Christ, la dynastie Han ayant duré quatre siècles, commodément à cheval, symétriquement sur le début de l'ère chrétienne. Donc, on voit donc sur ces embouts de tuiles qu'on appelle Huatang en chinois, donc d'époque Han, qui portent soit un caractère isolé. Vous avez ici, par exemple, ce caractère-là, dont voici donc l'estampage à gauche de la diapositive, et donc la transcription en caractère chinois moderne, donc à côté, et qui peut se lire de deux façons, avec deux sens différents, c'est-à-dire donc ça peut être yue, donc la musique, ou le, c'est-à-dire donc le plaisir ou la joie. Ici, dans le contexte Han, je pense qu'il est plus vraisemblable que ce caractère désigne la musique rituelle qui est associée au li, hein, c'est-à-dire au rite, hein, donc vous pouvez avoir également ces embouts de tuiles qui portent des formules, notamment des formules à quatre caractères, qui sont donc éminemment moralisantes. Alors là aussi, sur cette diapositive, vous avez donc l'estampage d'un de ces embouts de tuiles. Alors je reviens très rapidement sur la façon dont se présentent ces embouts de tuiles. Hein, de quoi suis-je en train de parler ? Ce sont donc ces morceaux de briques rondes, hein, que vous avez au bout des alignements de tuiles, hein, et donc au bord du toit. Autrement dit, ces embouts de tuiles, ici vous avez la reproduction en miniature d'une habitation d'époque Han qu'on a retrouvée comme objet funéraire dans une tombe, et vous voyez ici ces embouts de tuiles qui sont manifestement faits pour être vus, hein, et voire lus, hein, de l'extérieur, hein, quand vous êtes devant la maison, donc vous voyez ces embouts, hein, donc voilà. Alors donc ici, je reviens à mon estampage, vous avez donc quatre caractères, hein, qui sont transcrits à droite de la diapositive, donc de nouveau en chinois moderne, et qui vous disent ceci, donc qui sont disposés donc comme ça. Oui, ma flèche, j'arrive pas à la retrouver. Oui, alors donc vous avez Ren Yi Zi Cheng, donc ici, donc comme ça, hein. Alors c'est-à-dire donc Ren Yi sont deux notions qui font partie éminemment du vocabulaire confucéen, c'est-à-dire donc sens de l'humain et sens du juste, zicheng, c'est-à-dire se réalise d'eux-mêmes. Alors ça, c'est en fait non seulement un idéal moral, mais aussi un idéal politique. Comme le disait la phrase placée dans la bouche de Maître Zeng que nous venons de lire dans le Luyu, c'est un idéal politique dans la mesure où un bon souverain qui donne l'exemple, qui paye de sa personne pour donner l'exemple, qui incarne un exemple, un modèle, il n'aura rien à faire d'autre que d'incarner l'exemple, et donc le sens de l'humain et le sens du juste se réaliseront d'eux-mêmes. Vous avez également donc cet autre embout de tuiles qui porte une autre devise moralisante, également en quatre caractères, et qui est disposée de la même façon et qui vous dit donc Tao De Shun Xu, c'est-à-dire donc la voie, hein, et la vertu, hein, se mettent en bon ordre. Alors, Tao De, vous savez que c'est l'autre titre qu'on a donné au texte du Laozi, hein, à savoir donc le Tao De Jing, hein, le livre canonique de la voie et de sa vertu. Ici, je pense que nous avons là aussi deux notions qui, d'elles-mêmes aussi, se mettent en bon ordre. Hein, vous avez cette ce caractère shun, hein, où vous reconnaissez peut-être, ceux d'entre vous qui ont fait un peu de chinois, donc les trois traits verticaux, hein, qui pris isolément se prononcent chuan et qui désignent un cours d'eau. C'est ainsi que la province du Sichuan, hein, c'est la province justement des quatre cours d'eau et des quatre rivières, quatre fleuves, Et cette notion de shun veut dire qu'on va dans le sens justement de l'eau. Donc, ce texte du Leyu qui nous intéresse est à revisiter, pour employer une espèce d'anglicisme, à la lumière des avancées conjointes des philologues et des archéologues. C'est-à-dire qu'il est à relire non plus comme un texte d'auteur, ni même comme le résultat d'un processus continu de stratification et de sédimentation textuelle. On l'a vu l'année dernière, certains parlent d'accrétion, mais bien plutôt comme une concrétion d'unités textuelles mobiles qui se retrouvent dans diverses sources et dont les contextes différents leur confèrent des portées et des significations variables. Alors, un tel questionnement conduit à une hypothèse qui va nous préoccuper dans les séances qui nous restent, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle les entretiens de Confucius, ne peut pas s'être constitué en livre, c'est-à-dire comme une entité textuelle à peu près stabilisée, avant les Han antérieurs. Là, je vous reprojette ce tableau de repères historiques où j'ai mis en rouge donc les dates conventionnelles de Confucius, donc 551-479. Donc Confucius a vécu et censé avoir vécu donc entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et en bas du tableau, donc les dates repères donc de cette dynastie Han, qui se situe donc, comme vous le voyez, largement plusieurs siècles après le vivant de Confucius, puisque là aussi on date conventionnellement la dynastie Han de 206 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Donc ce questionnement nous conduit à l'hypothèse que le Leyu n'a pas pu se constituer en livre avant les Han antérieurs, c'est-à-dire la première partie ou les Han occidentaux, la première partie donc de la dynastie Han, donc en gros entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la période où commence à se mettre en place le nouvel ordre sociopolitique d'un empire centralisé. Donc je pense que la question qui va nous préoccuper, et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je vous avoue que je commence à fatiguer des yeux et vous, je pense, à vous fatiguer d'écouter ma diction un petit peu hésitante. Au fond, la grande question pour nous sera de voir dans quelle mesure le texte du Leyu et même la figure de Confucius elle-même ne serait pas, pour dire les choses assez brutalement, une invention des Han, c'est-à-dire, disons, une construction, non pas exactement de toute pièce, mais en fait, on pourrait dire une construction de nature idéologique qui aurait été donc effectuée pour servir donc les besoins d'un nouvel ordre impérial, d'un nouvel ordre, d'un empire centralisé. Ça, c'est vraiment une question que posent justement tous les déconstructionnistes que nous avons passés en revue jusqu'à maintenant, mais qui doit être considéré donc sérieusement. D'autant plus que cela comment dire, se rapporterait très directement à des préoccupations tout à fait contemporaines, avec justement cette instrumentalisation de Confucius, de la figure de Confucius, et ce fameux retour de Confucius que nous observons actuellement, notamment en Chine continentale, et qui nous a servi donc de point de départ. Donc vraiment, merci encore à vous d'être ici aujourd'hui, et j'espère donc à la semaine prochaine, sans plus de tuiles ou d'embouts de tuiles sur la tête, d'ici donc la fin de notre cours. Merci.